Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Cube Radio.
Sophie Durocher.
Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bon jeudi, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis encore ébranlée parce qu'hier, j'ai regardé le documentaire de Marie-Claude Barrette sur les enfants qui sont élevés par des parents qui sont dans une secte religieuse. Et écoutez, j'en suis encore complètement bouleversée et je pose la question, comment se fait-il qu'au Québec, on accepte que des enfants soient élevés dans la religion par des parents qui commettent des gestes illégaux? La réponse un peu plus tard dans l'émission avec une entrevue avec Marie-Claude Barrette. Quand j'ai vu ça, j'ai poussé un grand « ben voyons donc ».
Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
À chaque fois que je lis mon collègue et ami Joseph Facal, je vous dirais 99,9% du temps, je suis d'accord avec lui. Ça doit être que c'est une bonne personne. Joseph, bonjour.
Bonjour, Sophie.
On se plaît à dire que, tu sais, je veux dire, quand quelqu'un écrit la même chose que nous, on dit « mon Dieu, que hein, enfin, il a vu la lumière et tout ». Mais écoute, on a quand même une communauté de pensée. Je raconte tout ça en introduction, Joseph, parce que quand tu écris, par exemple, sur les gens qui se plaignent du couvre-feu ou quand tu écris sur les gens qui voyagent, on se rejoint vraiment là-dessus. Et surtout quand tu écris « quand je nous écoute brailler, je me désole. Écoute, moi, je suis juste plus capable d'entendre les gens qui se plaignent, qui se grattent le bobo, qui se regardent le nombril. Plus capable.
Moi, écoute, Sophie, j'essaie, si tu veux, de compartimenter les différents types de jérémiades que j'entends. J'ai infiniment de sympathie, par exemple, pour un restaurateur qui me dit qu'il a été littéralement acculé à la faillite.
Absolument.
J'ai immensément de sympathie pour, par exemple, un étudiant qui avait déjà des troubles d'apprentissage et que l'isolement lié à la pandémie est venu encore fragiliser. J'ai énormément de sympathie pour une personne dans un CHSLD déjà seule, encore plus seule maintenant. Et je ne peux pas, cependant, mettre ces jérémiades, mettre ces plaintes dans la même catégorie que les jérémiades que j'entends beaucoup autour de moi, de gens, comment dire, privés d'aller au musée, tannés de trop regarder Netflix, finalement tannés de cette espèce de cocon dont au début, finalement, tu te rappelles, on lisait des chroniques sur le fait que, oh mon Dieu, c'est douillet, on retrouve du temps pour des petits plaisirs domestiques. Franchement, là, il y a les complaintes liées à l'ennui et il y a des complaintes liées aux gens qui vivent d'authentiques drames. Et ouais, des fois, j'aimerais ça qu'on se garde une petite gêne.
Oui, puis écoute, on a tous les deux, je pense, été chavirés par le témoignage de notre collègue José Legault, qui est proche aidante, sa sœur est déficiente intellectuelle, et ça fait plusieurs années qu'elle en parle dans ses chroniques, José, de la difficulté, non pas de prendre soin de sa sœur qu'elle aime, mais de la difficulté d'être proche aidante quand on a peu de ressources, quand on a peu d'aide de la société. Et elle a écrit cette semaine une chronique pour dire à quel point, avec la pandémie, ça rendait tout ça encore plus difficile. Alors, je veux dire, on lit la chronique de José, je pense qu'on devrait tous se dire, je me tais, à moins que vraiment, là, j'ai un problème de santé majeur ou que je sois confronté à une réalité quotidienne excessivement difficile, on devrait tous se la fermer.
Sophie, et il y a un autre point qui me frappe aussi, c'est la devise du Québec, c'est « je me souviens ». Eh bien, si nous étions sérieux quand nous prétendons affirmer l'importance du souvenir, ben on devrait un petit peu aussi se comparer à ceux qui étaient là avant nous. Je ne dis pas que il ne faut pas souhaiter une meilleure vie que celle de nos grands-parents et de nos arrière-grands-parents. Mais quand on regarde, pour la plupart des gens, le confort douillet des vies modernes, en comparaison de ce qu'ont vécu ceux dont les efforts ont construit notre confort actuel, il me semble qu'on a justement, dans ce devoir de mémoire, un devoir aussi de se garder une petite gêne par rapport à des gens qui ont trimé pas mal plus dur que nous et qui, franchement, s'ils nous écoutaient, nous diraient « Hey, vous braillez le ventre plein ».
Oui, et ce que j'aime beaucoup aussi dans une autre de tes chroniques, c'est que tu parles de t'as tiqué sur la même chose que moi. C'est un article qui parlait du fait que dans le milieu de la construction, il y avait beaucoup d'éclosions et très peu de protection, hein, de beaucoup de gens sur les chantiers de construction qui respectent pas le 2 mètres, qui portent pas le masque, qui nécessairement se lavent pas toujours bien les mains. Et dans cet article-là, on apprenait que, bon, le gouvernement a demandé quand même de restreindre le milieu de la construction uniquement aux services essentiels, mais on apprenait qu'il y avait plein de gens qui trouvaient que se faire rénover la cuisine ou refaire le sous-sol, c'était essentiel et que les compagnies de construction sont absolument débordées d'appels. Ben, je m'excuse, mais on est en pleine pandémie. Penses-tu vraiment que c'est essentiel de faire rénover ton cabanon?
Écoute, moi, j'en étais absolument, absolument choqué. Il y a un employeur, un entrepreneur en rénovation dont les propos étaient cités dans le journal et qui a dit, je cite, « On ne veut pas le dire trop fort, on est choyé. La demande est très forte. » Comment dire? Une partie de moi peut comprendre qu'un entrepreneur qui a essuyé des pertes veuille maintenant saisir les occasions. Mais en même temps, écoute, on est dans l'incohérence la plus totale.
Total.
Quand le gouvernement dit « on va vous laisser vous-même déterminer qu'est-ce qui est essentiel », ben devine, quand il s'agit de faire une pièce, tout devient essentiel. Et c'est là que d'une certaine façon, beaucoup d'entre nous devenons un peu complices. Est-ce que la rénovation est une urgence en janvier 2021? Pas du tout. Et le pire, quand je te disais tout à l'heure, compartimentons et comparons les différentes catégories de souffrance, je peux comprendre qu'un travailleur de la construction, pas un entrepreneur, un travailleur de la construction a besoin de faire vivre sa famille. Et lui, il n'a pas le choix. Et lui, ben justement, comme il n'a pas le choix, il affronte le risque sur une base quotidienne. Et par-dessus tout ça, on lui impose quoi? Ben, on lui impose l'omerta. T'as vu? C'est la loi du silence. Il y a un travailleur qui dit, et je cite, « C'est certain que je perds ma job si mon nom sort dans les médias. » Alors, encore une fois, tu vois, c'est la comparaison entre ceux qui, sans être parfaits, font des efforts et se privent, y compris de revenus, et d'autres, au contraire, qui voient l'occasion, voient le pactole et tout à fait cyniquement tentent d'en profiter. Alors, évidemment, je peux comprendre que de temps en temps, nous soyons quelques-uns, et je m'inclus là-dedans, à avoir une grosse, grosse, grosse montée de moutarde au nez, là.
De moutarde au nez, oui. pour rester poli. Parce que ce qui me désole dans tout ça, Joseph, c'est le manque de jugement. Comment peux-tu prendre connaissance, par exemple, je sais pas toi, mais pour moi, un moment clé, un moment vraiment tournant dans cette pandémie dont on ne peut plus, on ne veut même plus entendre le nom prononcé, c'est lundi, quand il y a eu cette conférence de presse, Premier ministre Legault, ministre de la Santé, Christian Dubé, et la sous-ministre adjointe, qui a dit, ben écoutez, à cause du délestage dans les hôpitaux, ça va avoir des conséquences, non seulement pour les mois, mais pour les années à venir. Quand on pense aux gens qui sont en attente de greffe, qui ont d'opérations de base, bon, tu parles dans une de tes chroniques que t'attends une opération pour une hernie, bon, bref... C'est pour moi, ce moment-là a été un moment clé, un moment tournant, où on sait que nos hôpitaux sont à un demi-centimètre d'être saturés, et on est à un demi-centimètre d'appliquer le protocole de tri, où on va dire « toi, tu meurs, et toi, tu vis », et que pendant ce temps-là, il y a des gens qui pensent à mettre leur conjoint en laisse pour défier le couvre-feu, ou des gens qui pensent à planifier leur prochaine semaine de relâche dans le Sud, ou des gens qui pensent à... tu comprends, défier les lois ou même simplement à faire de la rénovation, je trouve qu'il y a une dissonance cognitive là qui est assez désastreuse.
Et ces gens, évidemment, qui, s'ils attrapaient le virus, seraient évidemment les premiers à brailler pour être rapidement possible soignés par un de ces hôpitaux dont ils ont contribué justement à provoquer l'engorgement, voire le débordement. Tu évoquais il y a un instant notre consoeur José Legault. Elle disait l'autre jour, et si c'était un de vos proches qui se retrouvait du mauvais côté du triage, bien à ce moment-là, peut-être que la rénovation de vos comptoirs à mélamine ou votre petit voyage à Caillou-Coco prendrait une toute autre tournure. En fait, Sophie, cette affaire-là, depuis le printemps, elle a été comme une espèce de loupe grossissante qui a fait voir le meilleur et le pire. Je savais, tu vois, que nous étions devenus une société individualiste, égocentrique, mais là, franchement, on a des cas spectaculaires qui me conduisent de temps en temps à admettre mon découragement et tu vois la grande différence entre les gérants d'estrade comme nous et le premier ministre, c'est que nous de temps en temps on peut laisser poindre notre impatience voire même notre colère. Le premier ministre, lui, il pense exactement comme nous, mais il doit garder le fort, il doit faire attention de ne blesser personne, il doit agir en bon père de famille et je suis sûr que quand François Legault voit certains comportements, oh, qu'il se retient de dire ce qu'il pense vraiment.
mais c'est intéressant que tu dises ça et que tu prennes la peine de le dire, Joseph, parce que, bon, on le sait, t'as été toi-même au gouvernement, t'as été dans les officines gouvernementales, et je suis contente que, semaine après semaine, tu continues quand même à montrer ton respect et ton admiration d'une certaine façon pour les qualités de leader de François Legault. Il continue à être à la hauteur selon toi?
Écoute, dans la mesure où on ne peut pas demander à un humain de faire plus que ce qui est humainement possible,
c'est bien
je vois pas. À qui il pourrait céder sa place, qui pourrait faire tellement mieux. Est-ce qu'il y a eu des erreurs? Bien entendu. Il est comme il est facile de faire une longue liste de toutes les coches mal taillées du gouvernement. Par ailleurs, n'oublions pas, le gouvernement du Québec est un demi-gouvernement. Ce n'est pas lui qui, par exemple, gère les frontières. Et justement, puisqu'il est question de se comparer, ben quand tu regardes ailleurs, quand tu vois, par exemple, des pays qui incarnent, si tu veux, l'organisation dans ce qu'elle peut avoir de le plus efficace possible de la part d'humain, quand tu regardes, par exemple, des sociétés comme l'Allemagne ou comme le Japon, tu vois que elles aussi, ces sociétés sont débordées, elles aussi sont obligées de prendre des mesures qui, oui, bien entendu, sont problématiques au plan de la restriction de certaines libertés fondamentales. Alors évidemment, quand on se compare, moi, j'atterris, si tu veux, du côté de l'indulgence pour François Legault. Et je peux te dire, Sophie, tu évoquais tout à l'heure mes années en politique, du côté justement, à l'époque où je siégeais aux côtés de M. Legault. À l'époque, dans mon temps, le pire que j'ai connu, c'est la crise du verglas en 98. Et M. Bouchard lui-même disait, La crise de 98, c'est de la petite bière en comparaison de ce qu'on fait.
Ah oui?
Alors, ben oui, oui. Alors, tu comprends que dans le contexte actuel, c'est tellement facile de chialer. Et je ne dis pas qu'il faut s'interdire de toute critique. Dans une société démocratique, libre, c'est le rôle notamment des médias, n'est-ce pas, de pointer du doigt, de poser des vraies questions. On a eu raison, tu vois, par exemple, de critiquer toutes les incohérences à propos du port du masque, etc. On a tout à fait raison de critiquer qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui ne l'est pas. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, ce sont des humains qui nous gouvernent. Tu vois? Ils sont imparfaits. Ben oui, l'humain est imparfait. Bon,
oui. Alors, ben, c'est bien de le rappeler.
Dans une société qui aime tellement, tellement se gargariser du mot solidarité, j'aimerais en voir un peu plus de la vraie.
C'est bien dit. C'est très, très bien dit, Joseph. Écoute, je peux pas m'empêcher de te parler de cette histoire, bon, qui se passe à Montréal, mais nos auditeurs sont partout à travers le Québec, mais c'est important d'en parler parce que ça a trait quand même à la loi 21, qui est une loi qui concerne tous les Québécois. Donc, la ville de Montréal décide de créer un poste de commissaire au racisme, à la discrimination systémique, etc., 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 tous les mots à la mode. Et elle décide de lancer un appel aux candidatures. Il y a 120 personnes qui soumettent leur candidature. Et la ville de Montréal choisit la candidature de Boshra Manai. Bon, c'est un nom qui est peut-être pas hyper connu, mais c'est quelqu'un qui a été porte-parole du Conseil national des musulmans, qui s'opposait et qui continue à s'opposer farouchement à la loi 21. Et, ben, c'est problématique.
Bien sûr que c'est problématique. Tu vois, d'un côté, si on regarde, comment dire, la partie indulgente de notre âme, on pourrait être porté à dire, bon, OK, elle commence, donnons la chance au coureur. Mais d'un autre côté, le passé est garant du futur et la dame a évidemment une feuille de route éloquente sur ses prises de position. D'un autre côté, c'est pas vraiment étonnant dans la mesure où on sait déjà où loge Valérie Plante. Bien entendu, tu comprends, Sophie, que si quelqu'un est payé pour trouver du racisme systémique, ben, si la personne veut garder sa job, elle a intérêt à en trouver partout. Hein? Et on voit d'une certaine façon un peu la même chose dans le monde universitaire, où tu as maintenant des militants déguisés en chercheurs qui sont subventionnés, notamment par le gouvernement fédéral, dans toutes sortes de groupes d'études ou d'enquêtes sur le racisme systémique. Alors évidemment, quand ton financement est lié au fait que ton intérêt à découvrir qu'il y en a, forcément, t'en verras partout. Et le plus désolant de cette nomination, c'est qu'elle entretient cette nouvelle confusion intellectuelle qui amalgame les problèmes liés à la race aux problèmes liés à la religion. C'est-à-dire qu'on nomme ici quelqu'un pour débusquer le racisme supposément systémique, alors qu'en fait, cette personne s'est fait connaître pour sa lutte à une loi qui essaie d'encadrer la liberté de religion. Donc, évidemment, on confond encore une fois et on oublie de rappeler, si tu veux, que la religion, c'est un choix. La religion,
absolument.
C'est un discours. La religion, c'est une pensée. La religion, c'est un ensemble d'idées.
Voilà.
Et donc, comme n'importe quel ensemble d'idées, ça peut se discuter. Alors que la couleur de la peau, tu ne l'as pas choisie, tu nais avec.
Mais ce qui est très amusant,
ne dit rien sur le caractère d'une personne.
Absolument. Et ce qui est très amusant, c'est que cette dame donc est nommée là, et il y a déjà des militants antiracistes qui disent, ben voyons donc, comment ça se fait qu'ils n'ont pas nommé noir? Écoute, j'ai lu ça dans la presse de ce matin. Je trouve ça absolument hilarant. C'est vraiment là, tu sais, la gauche est en train de s'auto-pelure de bananiser. Je veux dire, tu nommes quelqu'un là qui en apparence a toutes les coche toutes les cases. Ben il y a quelqu'un qui va lever la main en disant ouais, mais pourquoi vous avez pas nommé noir? Ah, écoute, ça finira jamais.
Ça, Sophie, c'est le piège dans lequel nous entraîne cette oui. nouvelle idéologie.
Oui, on va se quitter là-dessus, Joseph.
Voilà.
Oui.
Qui juge voilà. des gens à partir de leur catégorie, tu vois.
Voilà. C'est ça, le communautarisme.
Seuls parler du racisme et seuls les minorités religieuses peuvent parler de leur religion. Non.
Absolument.
Avec ça, on s'en va nulle part.
Absolument. Ben écoute, c'est là-dessus que ça se termine. Merci beaucoup, Joseph. Donc, j'encourage tout le monde à lire les chroniques de Joseph Facal dans le Journal de Montréal, Journal de Québec.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
Il y a un documentaire qui vient d'atterrir sur Club Illico que vous devez absolument voir. Vous devez prendre 2 heures de votre temps, vous asseoir devant ce documentaire. Culte religieux des enfants oubliés. C'est animé et toutes les entrevues sont faites par Marie-Claude Barrette. C'est une réalisation de Patricia Beaulieu. Et vraiment, c'est à voir. Marie-Claude Barrette est au bout de la ligne. Bonjour Marie-Claude.
Bonjour Sophie. Ça me fait plaisir de te parler de ce projet assez troublant quand même à faire.
Écoute, très troublant parce que, bon, le titre, c'est « Culte religieux des enfants oubliés ». On pourrait dire aussi « des enfants abandonnés », on pourrait parler d'enfance ouais. volée. Parce que on est d'accord, tout le monde, avec le principe, quand un adulte doué de raison, choisit de son propre chef de rentrer dans une religion ou de rentrer dans une secte, ça ne dépend que de lui. Mais la question ici, c'est les enfants qui ont rien demandé. Qu'est-ce qui a été le témoignage le plus troublant pour toi dans ces 2 heures de documentaire?
C'est une bonne question. Je te dirais que François Thériault m'a... C'est particulier ce qui s'est passé. Lui, son père s'appelait Moïse Thériault, hein? Rock Thériault, il s'est nommé Moïse Thériault, puis je pense qu'on se souvient beaucoup de ça. Ça, c'est marquant parce que lui, il avait une mère en dehors de la secte, puis son père qui était le gourou de cette secte-là. Et toutes les... Écoute, on n'a pas tout mis là dans l'entrevue parce que c'était des entrevues de plusieurs heures, mais tout ce qu'il a subi, tout ce qu'il a vu, tu sais, son frère, je veux dire, est en choc post-traumatique, son frère ne va pas bien du tout, tu sais, parce que c'est dur de repenser à cette réalité-là et de voir que lui a réussi à être le père qu'il voulait être et le père qu'il aurait aimé avoir. Moi, quand j'ai rencontré ses filles à la fin de la journée, je veux dire, c'était extrêmement bouleversant de voir sa plus jeune. Moi, j'ai lu le livre que mon père et son frère ont écrit, puis la plus vieille, moi, j'ai pas été capable encore de le lire. Tu sais, c'est... mais en même temps, de voir que quand on dit résilience, des fois on l'utilise à plusieurs sauces, pas toujours à juste titre, mais dans ce cas-là, pour continuer à vivre, il y a de la résilience. Puis tu sais, Myriam Kayser qui vivait en Belgique avec ses frères, ses sœurs, ses parents qui parlaient flamand, tout à coup, elle arrive dans les Laurentides. Avec sa famille où on parle français, où on sépare ses frères, on sépare les enfants et les filles, on sépare pas le groupe d'âge, et ses parents ne sont plus avec eux, même ses parents sont séparés, ils ne sont plus un couple. Alors, on peut imaginer, là, pour un enfant de 2 ans, là, on a, qu'est-ce que ça veut dire, puis quand j'ai demandé si elle avait été agressée sexuellement, elle me répond, ouais, je pense que j'avais 2 ou 3 ans la première fois.
Oui. Et ça, alors, c'est particulier. C'est particulier dans ton documentaire, Marie-Claude, parce que des cas d'abus physiques, d'abus psychologiques, d'abus sexuels, il y en a beaucoup. C'est quasiment un point commun entre ces différentes sectes. Et t'as parlé, par exemple, à cette dame qui a été donc dans les Témoins de Jéhovah, pas par son propre choix, hein, ses parents étaient témoins de Jéhovah, et elle a été abusée de l'âge de 7 ans jusqu'à 17 ans. Et quand elle a porté plainte à la communauté, elle a appris que non seulement ce monsieur-là avait déjà fait d'autres victimes, mais la communauté lui a demandé, en fait, d'étouffer ça. C'est terrible!
Ça, elle va être sur le plateau de Deux filles. Demain, j'enregistre une émission qui va passer lundi où on va voir, entre autres, François, Marie-Lou, M. Dumais, l'ex-directeur de la DPJ, puis l'avocate de Marie-Lou. Pas l'avocate, Pénélope, c'est-à-dire, parce qu'il y avait Marie-Lou et Pénélope. Mm-hmm. C'est Pénélope que je vais recevoir, mais l'avocate, justement, parce que ils ont fait un recours collectif, plusieurs personnes. Il y en a même qui sont encore chez les témoins de Jéhovah, qui font partie de ce recours collectif-là. Ils ont gagné en première instance. Donc, c'est la première fois que les témoins de Jéhovah vont devoir, en tout cas, rendre des comptes. Et il y aura probablement une poursuite aussi en civil pour avoir des sous de tout ce que ça provoque dans leur vie, le manque à gagner. Mais Pénélope, effectivement, tu sais, Patricia Beaulieu, la réalisatrice et moi, on a fait « Où es-tu ensemble? » On se connaît, on a fait deux saisons et c'est la première fois que j'entendais autant d'émotions dans mon équipe pendant disait ça. Écoute, là, je sentais là, qu'il y avait beaucoup de... que ça venait de toucher... c'est comme si tu disais, donc ça se peut pas, là, tu sais. En plus, quand elle racontait, quand Pénélope racontait, ben, tu sais, il faut aller voir les trois anciens, ces trois hommes. Il faut tout, tu donnes des détails de l'agression sexuelle. Est-ce que tu as eu du plaisir? Quel degré de plaisir tu as eu, tu sais? Jusqu'à là, là. Alors, imagine la culpabilité de l'enfant, puis elle disait, est-ce que je suis en train de leur donner presque des fantasmes en racontant ma propre histoire? Alors, tu sais, je te dis, là, cette journée de tournage, parce qu'on a fait toute une journée de tournage avec les quatre, puis ils aiment pas qu'on dise ex-témoin de Jéhovah, parce qu'ils disent, on n'a jamais voulu l'être, mais en même temps, on comprend quand même ce que ça veut dire. Ils ont dû quitter. Puis, quitter, là, quitter un culte religieux fermé, là, hey, c'est pas facile, là. Il y en a plusieurs qui, tu sais, il y en a plusieurs qui n'y arrivent pas parce que c'est faire un X sur ta vie, sur ta famille, sur tes parents, sur ton histoire, pour se retourner vers quelque chose que tu n'en as aucune idée c'est quoi. Tu t'en vas pas, puis en plus, on t'a dit que ça, c'était le démon, c'était le mal. C'est ça qu'on t'a dit. Alors, il y a toujours une notion de bien, de mal, de noir, de blanc, de méchant, de bon. Ils ont beaucoup de points en commun, peu importe d'où ils viennent.
Ouais, et t'as une de tes intervenantes qui a fait beaucoup de recherches là-dessus. Elle dit quitter, c'est l'enfer. Et je trouve que ça résume très très bien la situation. Oui. Écoute, tout à l'heure, t'as parlé du témoignage de François Thériault, donc le fils de Roch Moïse Thériault. Et il y a un moment très troublant dans son témoignage. Je vais demander à Sébastien Lapierre, mon collègue, de nous faire écouter cet extrait-là.
Il nous le disait, si vous vous servirez contre moi, je vous tue. Il avait dit à un des hommes de la commune, il avait été faire chercher à 303, il l'a chargé en avant de nous autres. Il dit, pointe mes gars, il nous pointe ça dans la face. Et là, il dit, si je te dis de tirer, tu vas tirer? Oui, Moïse. Il me regarde, il dit, t'as-tu peur? Là, je le regarde, il dit, oui, j'ai peur. Il dit, t'as peur de quoi? Je dis, j'ai peur de toi.
Ouf! Ça, je t'avoue, Marie-Claude, que j'en ai des frissons juste à le réécouter. Peur qui est instaurée, et là, c'est François par rapport à son propre père, mais dans toutes les sectes, c'est ça, on leur dit, si vous parlez contre la secte, vous allez vous attirer les foudres. Si vous quittez, c'est un monde de démons, c'est Satan. Si vous avez pas les bons comportements, on va vous battre. C'est la terreur qui règne.
C'est vraiment un régime de peur. Puis ce que je trouve encore épouvantable, c'est qu'on dit que même dans les pensées, s'ils pensent à quelque chose qu'ils devraient pas, leur guide spirituel, que ce soit Jéhovah, va le savoir, tu comprends? Fait qu'imagine, ils n'ont pas d'espace à eux jamais, même dans leur chambre à coucher, s'ils pensent à quelque chose qu'ils ne devraient pas, ben ils vont être punis. Et si on parle de Jéhovah, ben ils vont devoir aller faire du porte-à-porte comme pour se racheter par rapport à ça. Écoute, là, c'est sûr que c'est troublant. Puis, tu sais, Myriam Kayser, cette femme-là a écrit beaucoup. Je pense que pour elle, ça a été très thérapeutique de le faire parce qu'elle avait besoin de dire il y a quand même une vie après. Et tu sais, tous ont en commun de vouloir aider les enfants qui sont présentement. Parce que pourquoi ils le font? Parce que eux, ça changera rien à leur vie nécessairement, ça améliorera pas leurs conditions de vie. Ils iront pas plus voir leur famille. Au contraire, les familles vont encore plus les bloquer suite à cette participation-là du documentaire. Ils en étaient très conscients. Mais ils disent au nom des enfants qui sont là, parce que dans le documentaire, on voit Jean-Christophe et Jasmine Ami, parce que Jasmine devait être seule. Elle est arrivée avec Jean-Christophe. Finalement, il a fait partie du documentaire. Et elle, elle nous a dit quelque chose, là, Sophie. Là, moi, j'en avais des frissons. Moi, quand j'avais 16 ans, là, j'étais plus capable, là, j'étais pas bien. Et je m'étais dit, ben regarde, à 21 ans, si ça change pas, je vais m'enlever la vie, puis ça va finir là. Puis en pensant comme ça, j'étais capable de passer à travers de chacune de mes journées. Et finalement, Jean-Christophe a quitté la communauté et il est revenu la chercher. Et c'est comme ça que c'est Jean-Christophe qui est allé la chercher. Il l'a aidée, mais elle a vraiment, elle prend beaucoup de médicaments. C'est quelqu'un, elle est en thérapie, c'est quelqu'un qui trouve ça excessivement difficile. Puis elle s'ennuie de sa famille. Tu sais, un père, une mère, ça ne se remplace pas dans la vie. Et Marie-Lou, elle a deux adolescents. Elle habite dans la même ville que ses parents. Et ses parents n'ont jamais vu ses enfants.
C'est
alors,
triste.
C'est ça, le prix à payer est énorme. Mais imagine, quand on quitte et qu'on a ce prix-là à payer, c'est parce qu'on n'en peut plus. Alors, c'est pour ça que leur donner, une voix, d'être à leur écoute, de comprendre. Puis, on n'a pas voulu être sensationnaliste parce qu'on aurait pu mettre des détails, mais encore pire, mais je pense qu'on comprend très bien
tout
qu'on voit la pointe de l'iceberg et qu'est-ce qui se passe en dessous. Je pense qu'on n'a pas besoin d'en savoir. C'est déjà très dur d'entendre ces propos-là et de savoir que ces enfants-là habitent sur le territoire du Québec. On n'a que des cas québécois.
Alors, voilà. Alors, c'est là que le bât blesse, Marie-Claude, parce que la question fondamentale que tu poses dans le documentaire, c'est 1. Où sont les autorités? 2. Qu'est-ce qu'on fait, nous, comme société? Et 3. Comment ça se fait qu'au nom de la religion, on permet à des individus de commettre des gestes qui sont illégaux? Est-ce que tu as eu une réponse à ces trois questions-là?
La réponse n'est pas venue parce qu'on n'a pas pu. Tout le monde a refusé du gouvernement. Tu sais, on a contacté des ministres. Finalement, ils ont dit que ça sera pas possible de participer au documentaire. Tantôt tu faisais référence à Lorraine Derocher, qui est sociologue et autrice de plusieurs livres qui parlent des sectes, des mouvements religieux, des cultes religieux. L'emprise est vraiment. C'est vrai, elle en a fait sa vie. Mm-hmm. Et Lorraine dit quelque chose. Elle dit. Vous savez, au Québec, là, on a tout pour aider ces enfants-là. On n'a pas besoin de lois supplémentaires. On a tout. On a tout écrit. Mm-hmm. Comment protéger? Comment donner l'éducation? Comment offrir une sécurité? Mais on donne pas force à ces lois, à ces règlements-là. Parce qu'elle dit, quand ça touche une communauté fermée avec un culte religieux particulier, on regarde pas l'adresse avec la famille qui est en problème ou il y a un enfant qui va pas. On dit, c'est un culte religieux. Donc, on n'y va pas. Elle dit, faut arrêter de penser comme ça.
Tout à fait.
Faut cogner à la porte, puis on voit ça comme n'importe quel citoyen qui habite sur le territoire du Québec. Et on sait qu'on a une façon de fonctionner en communauté. Et si toi et moi, Sophie, on ne suit pas cette façon-là, si tu n'avais pas envoyé ton fils à l'école, qui n'avait jamais été inscrit à nulle part, ben tu en aurais eu des nouvelles.
Mais oui.
Mais eux, ils n'en ont pas de nouvelles. Puis la plupart sont même pas inscrits à l'état civil. Ils n'existent pas au Québec. Mais les témoins de Jéhovah, je ne peux pas frapper sur le coup juste deux, mais eux, ils vont dans nos écoles. Hein. Les témoins de Jéhovah vont à l'école jusqu'au moins jusqu'en secondaire 5 maximum. Après ça, ils ne peuvent pas continuer. Mais on peut les repérer, puis même quand on les repère, on ne va pas cogner à leur porte. Alors,
c'est inacceptable.
C'est inacceptable, puis ça se peut pas, tu sais, qu'on n'a pas d'examen, par exemple, de secondaire 5 pour, par exemple, les juges astuciers, on leur dit, oh non, nous, on a notre système privé d'éducation, on correspond, mais quelle preuve on a de ça? On n'en a pas. Puis ceux qui ont poursuivi le Québec, malheureusement, ils ont perdu parce qu'ils ont
quel dommage. Oui.
Absolument. Et l'avocat maître Bruce Johnson le dit, tu sais, c'est eux tout ce qu'ils disent au Québec. Pourquoi vous nous avez pas donné l'éducation comme on aurait dû l'avoir, parce que nous sommes des enfants du Québec. Ils ne l'ont pas eu, puis c'est pas vrai que le système d'éducation est le même que qu'ailleurs. Puis c'est eux, l'homme qui a fait la poursuite, parce que c'est un couple, lui, il ne parlait pas français à peine
l'anglais. Shannon, oui.
Exactement. Et elle parlait quand même un peu français. Il montre un peu le français aux filles parce que c'est les filles qui font les commissions hors communauté. Mais tu vois, c'est pour ça qu'ils apprennent un peu les mathématiques, parce que c'est les filles qui font l'administration du budget familial. Et les hommes, pendant ce temps-là, ce qu'on nous dit, c'est qu'ils lisent la Torah, ils apprennent, tu sais, ils
apprennent 12 heures par jour.
12 heures par jour où ils font, ils apprennent, ils travaillent pour leur religion, ils travaillent pour leur Dieu. Alors, c'est comme dire à ces gens-là, c'est pas vrai ce que vous nous dites, et pourtant, ils ne savaient même pas c'était quoi le fleuve Saint-Laurent, puis ouais. C'est des gens qui ont grandi à Boisbriand, là, hein, on s'entend. Alors, nous, ce qu'on a voulu démontrer, on n'est pas allé essayer de parler au chef de... Nous, c'est les enfants. Puis les enfants, pour nous, ils sont sous le joug de n'importe quel règlement, n'importe quelle loi. Mais sont comme la DPJ, par exemple. Pas parce que tes parents ont fait un choix spirituel différent que toi, tu n'as pas le droit aux mêmes mesures d'éducation, de sécurité. Tu sais, alors, c'est deux poids, deux mesures, mais
totalement.
Il y a comme un mur invisible qu'on ne comprend pas. Et pourquoi les gouvernements ont si peur? On s'y perd alors qu'on nous a dit que nous étions une société athée quand même. Pas athée, je veux dire.
Laïque.
Une société où, laïque, pas athée, mais laïque, oui, tout à fait. Alors, où est la laïcité dans tout ça?
Tout à fait.
C'est une grande question aussi.
Ouais. Alors, moi, j'ai adoré le témoignage d'Agnès Maltais, parce qu'elle s'est battue, justement, puis malheureusement, les autres députés l'ont pas suivi, mais elle dit deux choses extrêmement importantes, puis on va se quitter là-dessus, Marie-Claude. Elle dit, Agnès Maltais, du Parti québécois, elle dit « Quand le gouvernement entend le mot religion, il recule. » Et elle dit aussi un peu plus loin « La loi, c'est la loi. Les Québécois ne veulent plus que la religion ait du pouvoir sur les enfants. » Vraiment un documentaire extrêmement important. Puis j'espère qu'il va y avoir des réactions politiques à ce documentaire-là. Merci beaucoup, Marie-Claude, d'être venue nous en parler aujourd'hui.
Bien, ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup, Sophie. À la prochaine.
Alors, c'est disponible, bien sûr, sur Clib Illico, culte religieux, les enfants oubliés, on aurait pu dire aussi des enfants abandonnés, des enfants à qui on a volé leur enfance. Vraiment un documentaire choc.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique.
Cube Radio.
Mercredi, lors d'un point de presse, Mylène Drouin, qui est directrice régionale de la santé publique de Montréal, a annoncé qu'il y aurait un lot de 560 doses de vaccins réservées à la population itinérante. Pourquoi? Parce que cette population-là, pardon, est considérée comme prioritaire, parce qu'il y a eu plusieurs milieux d'éclosion. On va en parler avec l'abbé Claude Paradis, celui qu'on surnomme le curé de la rue, parce qu'il travaille de très près avec les itinérants. Bonjour. Monsieur Paradis, comment allez-vous?
Ça va bien, bonjour, Madame Desrochers. Desrochers, oui, ça va très bien, merci.
Oui, écoutez, votre nom de famille, c'est le Paradis, mais pour les itinérants, en ce moment, avec la COVID-19, c'est l'enfer. Excusez le mauvais jeu de mots.
C'est exactement ça, là.
Oui, comment vous accueillez cette nouvelle de la vaccination?
Ça ne sont pas évident, hein, ces deux vaccins. Les gens se promènent beaucoup la nuit. Beaucoup d'entre eux marchent lorsqu'il fait froid pour ne pas geler. Alors moi, j'ai pas une solution, mais je pense à quelque chose. À Montréal, là, on a Médecins du Monde qui ont une clinique mobile. Ah. Et ils font de la prévention, ils font des trucs comme ça. Alors, ce serait peut-être bien si on aurait une clinique de vaccination mobile pour aller dans les parcs, pour aller dans les ruelles, pour aller où ils sont. Ce serait peut-être une des choses qu'on pourrait faire avec bien d'autres choses.
Oui.
Moi, je m'engagerais peut-être même à suivre cette clinique-là pour parce qu'il faut savoir où les gens se trouvent, hein, où les gens se cachent, d'un sens. Alors, faut les voir, faut aller à leur rencontre. Ceux qui vont dans un refuge, bon, ben là, on peut les rejoindre plus facilement. L'autre problématique, beaucoup de ceux-là sont en santé mentale. Mm-hmm. Alors là, ça va être tout un défi.
Oui. Alors pourquoi ça va être tant un défi, M. Paradis?
Les gens, même si on leur donne exemple le premier vaccin, ils ne sauront même pas s'ils ont été vaccinés. Il y en a d'entre eux qui sont complètement hors du temps, hors de l'espace, ils ne savent pas où ils sont. Consomment de drogue, ils deviennent schizophrènes. Alors, ça va être difficile.
Oui.
Et
même
eux
temps,
ne veulent pas nécessairement aller dans les refuges. C'est eux qui ne veulent pas aller dans les refuges.
Voilà. Mais en même temps, on n'a pas le choix de les vacciner parce que, bon, il y a déjà des cas d'éclosion, il y a des cas de contamination. On s'entend que si quelqu'un est en psychose ou si quelqu'un a des troubles de santé mentale, les chances que cette personne-là respecte le 2 mètres, porte le masque, se lave les mains, sont quand même assez minces. Donc, c'est toutes sortes de facteurs qui sont aggravants, là.
Oui. Oui, vous avez parfaitement raison. Moi, les jeudis, comme ce soir, là, je rencontre à peu près une centaine de personnes.
Oui.
Sur les 100 personnes, il n'y en a pas beaucoup qui ont le masque. Alors, il faut continuellement leur dire de prendre une distanciation. Alors, ils viennent chercher leur nourriture un à la fois. Mais il faut répéter souvent. Hein. Puis c'est ça, ils n'ont pas de masque. À des fois, ils essaient de se parler dans la ligne, parce qu'ils font la ligne. Alors, on doit leur dire, ben vous pouvez pas vous parler. À la fin, lorsqu'ils ont reçu leur sac, ils ne peuvent pas nous parler non plus, parce qu'on ferait un regroupement.
Oui.
Et les gens santé mentale ne comprennent pas tout ça. Alors non, c'est compliqué. Hein. C'est pas une mince affaire. Et ces gens-là ont vraiment besoin d'avoir de vaccins. Il faut, là, eux et tous les gens de la rue, parce qu'on va avoir tout un problème. Hein.
Oui,
s'ils sont pas vaccinés, là, on va avoir tout un problème.
Mm-hmm. Oui, et en même temps, il y a sûrement des gens qui nous écoutent puis qui disent, ben voyons donc, la priorité, c'est pas d'aller vacciner les itinérants, la priorité, c'est d'aller vacciner ma mère ou d'aller me vacciner moi ou d'aller vacciner les gens dans le système de santé. Qu'est-ce que vous répondriez à ces gens-là qui comprennent pas l'importance et l'urgence de vacciner les itinérants?
C'est qu'il y en a beaucoup d'entre eux dans les itinérants. Il y en a qui sont sidéens. Il y en a d'autres qui sont diabétiques. Ils ont des plaies aux pieds parce que les chaussures ne sont pas ajustées. Il y a la santé mentale. Alors, tous ces facteurs-là, on doit un peu prioriser parce qu'on va avoir des décès cet hiver. Hein. Moi, j'appréhende ça. Pas soignés, ils sont mélangés un à côté de l'autre. Alors moi, j'ai l'impression que je vais faire des funérailles cet hiver, là, des gens de la rue. Alors ça me fait un peu peur pour ça. Là.
Je comprends.
Parce qu'il y en a qui ont un cancer, il y en a qui ont différentes problématiques, déjà en santé en partant. Là. Sans le COVID, là, sont déjà fragilisés par une maladie.
Je comprends. Et c'est votre grand cœur aussi qui parle, Monsieur Paradis,
oui.
Parce que c'est une communauté dont vous êtes excessivement proche. Et je me rappelle, par exemple, il y a quelque temps sur les ondes de Cube Radio, vous aviez à l'émission de Benoît Dutrisac exprimé toute votre colère quand Valérie Plante, la mairesse de Montréal, avait dit ah ben là les sans-abri devraient aller patiner. Je veux dire, c'est quelle déconnexion quand même!
C'est incroyable. Je comprends pas. Elle doit avoir une équipe ou qu'elle n'écoute pas l'équipe ou les gens, là, exemple, il y avait quelqu'un dernièrement, il y avait des chaussures d'été et il s'était mis des sacs de plastique, de poubelle sur, par-dessus ses souliers tout défaits, là. Ça, c'était ses bottes d'hiver. Alors, imaginez-vous, elle est patinée. Ils sont loin d'avoir des patins, ces gens-là. Ils n'ont même pas de bottes. Mm. Alors, voyons donc, ça n'a aucun sens.
Monsieur Paradis, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, comme simples citoyens, pour venir en aide, justement, à cette clientèle-là? Vous parlez de gens qui n'ont même pas de bottes d'hiver. Est-ce qu'il n'y a pas des organismes qui peuvent, justement, leur fournir des bottes d'hiver? Est-ce que nous, si on a des bottes d'hiver, est-ce qu'on peut aller en porter? Est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qu'on peut faire comme citoyen quand on vous entend, Monsieur Paradis? Oui?
Oui, il y a un autre phénomène aussi dans les refuges. Je prends la maison du par exemple. Eux sont passés, disons, de 200 lits à peu près 80 lits. Manque de bénévoles, manque de ressources. C'est normal qu'ils manquent de bénévoles. Hein. Les gens ont plus peur et c'est bien correct.
Bien sûr.
Moi, je suis passé de 30 bénévoles à 7 bénévoles. Alors, tous les refuges fonctionnent un peu au ralenti. La maison du père, on peut aller deux semaines durant le mois pour laisser la chance à plus de personnes que possible. Mais les deux autres semaines, ces gens-là se retrouvent presque à la rue, là, forcément à la rue. Mm. Alors oui, on peut aller porter des vêtements dans des refuges, là. C'est redonner aux gens de la rue, là, oui.
Donc ça, on peut, même en période de pandémie, c'est autorisé, là, on peut aller porter, soit des denrées ou des vêtements chauds pour les personnes en situation d'itinérance. Vous l'avez mentionné, vous êtes passé, vous, de 30 bénévoles à 7 bénévoles. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça quand le premier ministre François Legault, quand il a annoncé le couvre-feu à 20h, il a dit, il s'est fait poser la question, évidemment, qu'est-ce qu'on fait avec les personnes en situation d'itinérance? Il a répondu, vous en faites pas, tout va bien, il va y avoir des refuges pour tout le monde, il y aura de la place, et tous ces gens-là qui le veulent vont pouvoir aller dans des refuges. Comment vous avez réagi quand vous avez entendu ça?
Ben, c'est qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde. Il y a à peu près, mon Dieu, 600 lits à Montréal. Ils sont 3000 à la rue. Alors, c'est sûr qu'il manque beaucoup de place. Même si le gouvernement dit ça, Mme Plante aussi. Dans la vraie vie, là, c'est pas le cas. Et il y a tous ceux qui ne veulent pas aller dans les refuges aussi. Là, la température, c'est bien. Mais lorsqu'il fera moins 20, ça, c'est une autre histoire. Alors là, à moins 20, il y a des amputations. Ça, à chaque hiver, nous en avons. Les gens doivent se faire amputer les doigts, parce qu'à cause du froid, il y en a qui consomment et ils tombent endormis, ou d'autres, sans consommer, tombent endormis l'hiver à l'extérieur. Alors, il peut y avoir des amputations durant les hivers aussi, durant les jours froids, là.
Mais qu'est-ce qu'on fait, Monsieur Paradis?
Parce que
vous dites qu'il y a des gens qui ne veulent pas aller dans les refuges parce que, bon, entre autres, il y a des gens qui souffrent de différents troubles mentaux. Alors, on fait quoi? On fait quoi, Monsieur Paradis, pour empêcher, justement, qu'ils se retrouvent dehors à moins 20 et qu'on doive leur amputer des membres? On fait quoi avec ces gens-là? Comment on fait pour les amener dans des refuges alors qu'ils ne veulent pas y aller?
Moi, je pense qu'il manque des haltes chaleur. Alors, une halte chaleur, c'est pas comme un refuge. Alors, les gens ont moins peur. Les gens, surtout en santé mentale, ils ont beaucoup peur de l'autorité. Mais une halte chaleur, bon, ils peuvent pas dormir là, mais au moins, ils peuvent passer la nuit à la chaleur. Alors, ça, il y aurait ça. Il faut aussi que presque les gens qui sont déjà dans la rue, qui n'ont pas de problématique, emmènent quelqu'un en santé mentale dans un refuge. Mais souvent, les gens entrent dans un refuge et peut-être une heure, deux heures, ils quittent le refuge. Alors là, c'est compliqué parce qu'ils prennent la place d'un autre qui n'a pas pu rentrer parce que c'était complet. Et la personne en santé mentale retourne dans la rue. Alors ça, c'est un... On double là, les manquements, disons. Ouais. Mais c'est pas une situation évidente. Hein. C'est vraiment difficile là, pour les gens de la rue. Là, c'est un gros problème cet hiver.
Ouais. Est-ce que c'est le pire hiver que vous ayez connu, M. Paradis?
Oui, je pense que oui. Oui. Ah oui, avec tous ces phénomènes, là, oui.
Quand vous disiez tout à l'heure, et je trouvais ça très, très touchant, vous disiez que vous attendiez à faire beaucoup de funérailles cet hiver. Un hiver normal, vous faites combien de funérailles de sans-abri?
Ah, quelques-uns par hiver. Et une fois par été, je fais une mise en terre des gens décédés non réclamés. Alors, j'en ai à peu près juste pour Montréal, là, j'en ai, je sais pas, 150, 200 à chaque été. Des gens qui sont décédés durant l'année, non réclamés, justement. Là. Des gens qui décèdent seuls. Alors, si je ne fais rien, ils auront absolument rien. Pourtant, c'est des êtres humains. Là. Ils ont droit à la même chose qu'une autre personne. Là. C'est pas un privilège. Là. Alors, moi, je me dois de faire ces mises en terre-là là, pour les gens non réclamés.
Oui. Et vous attendez cette année qu'il y en ait plus?
Pardon?
Et j'ai dit, et vous attendez cette année, là, en 2021,
oui.
qu'il y en ait plus
oui.
que cette pandémie-là. Mais quelle note vous donnez à la ville de Montréal quand même, Mylène Drouin, qui dit on va vraiment là, mettre sur pied quelque chose, on va vraiment spécifiquement non seulement vacciner les sans-abri, mais aussi les gens qui travaillent, les gens qui interviennent auprès des sans-abri. Ça, c'est une bonne nouvelle quand même. La ville de Montréal, est consciente du problème.
Oui, tout à fait. Oui. Eux aussi travaillent fort, là. C'est pas un sujet facile. Mais non, la ville s'implique. Ils essaient de faire des choses eux aussi, là. C'est pas. Alors, tout le monde, on va essayer de vraiment travailler ensemble, puis d'aller pour la même cause, là.
Ouais. Monsieur Paradis, je voudrais vous remercier pour tout le travail que vous faites et tout le cœur que vous y mettez, toute l'humanité que vous y mettez. Vous êtes vraiment un ambassadeur extraordinaire. Vous donnez une voix aux gens qui n'ont pas de voix et ça, c'est important dans la société dans laquelle on vit.
Ben merci à vous, c'est gentil.
Monsieur Paradis, merci. Et puis c'est le jeudi que vous faites, donc c'est ce soir là que vous faites cette distribution là. Donc on vous souhaite bon courage pour aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Merci. C'était l'abbé Claude Paradis, qu'on appelle communément le curé de la rue, qui nous parlait de ces mesures donc de la ville de Montréal. Mylène Drouin, directrice de la santé publique pour la ville, et Valérie Plante également, qui ont annoncé donc qu'il y aurait des mesures spécifiques de vaccination pour la population itinérante. Mais comme l'expliquait l'abbé Paradis, c'est compliqué parce que, regardez, déjà comme c'est compliqué dans certains cas de simplement donner une première dose, mais quand on a toute une population qui souffre, par exemple, de problèmes de santé mentale, de se rappeler, ils ont pas de notion nécessairement du temps ou une notion de la géographie, de se rappeler qu'ils doivent être vaccinés une deuxième fois, c'est tout un casse-tête. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci à Sébastien Laperrière, à la mise en onde et à la réalisation. Et merci à Véronique Morin, à Maude Boutet et à Luc Fortin à la recherche. Et puis, je vous dis au revoir et puis on se retrouve demain. Cube Radio.